Bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Merci de venir ou de revenir pour certains d'entre vous, parce qu'on calculait avec Marie-Hélène tout à l'heure que c'est déjà notre cinquième saison. C'est la cinquième saison au cours de laquelle j'ai le plaisir de participer à ces rencontres improvisées, à ces espèces de... Bah, si vous êtes venu, c'est que vous en doutez un peu. Rien n'est préparé d'autre que la littérature, que les livres, que les romans que nous avons lus, que nous avons relus, et à propos desquels nous allons parler à bâton rompu et essayer de nous rencontrer, Jean-Marc Parisi et moi. Je suis enchanté de commencer cette cinquième saison avec lui, à plus d'un titre. Celui de ce soir étant d'abord un titre de Balzac, sans jeu de mots, La peau de chagrin, mais vous verrez que je pense qu'à partir de là, puisque roman il y a, nous aurons l'occasion de dériver très vite vers des pages plus contemporaines. Alors j'ai dit que je prêchais d'exemple. On m'a équipé de ceci il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas encore très habitué, mais je sais qu'il faut le couper, si possible, ou le mettre sur vibreur. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas trop, mais je crois que ce serait plus agréable pour tout le monde. Comment ça marche? Ça va marcher.
Il faut faire comment? Il faut s'asseoir dessus.
Ah, ben ça c'est pas mal, évidemment. Ou alors, effectivement, faites comme Jean-Marc Parisi, asseyez-vous sur votre portable le temps que ça dure.
Voilà. Composez trois fois le code PIN, il est erroné, et après, vous ne pouvez plus vous en servir. C'est exactement ce que je viens de faire.
Très bonne idée.
C'est pour ne pas être dérangé du tout pendant que vous avez pensé.
Alors, Jean-Marc, ça devait arriver, fatalement. Jean-Marc Parisi a choisi de nous lire des extraits de La peau de chagrin. Il s'en expliquera s'il le veut bien plus tard, si je n'oublie pas de lui poser la question, parce que très souvent nous dérivons. La peau de chagrin que, pour l'occasion, Jean-Marc Parisi a relu dans cette édition, celle de notre partenaire, comme toujours, pour ses rencontres, c'est-à-dire l'édition Garnier Flammarion, qui a été procurée assez récemment par Nadine Satia, avec une bibliographie mise à jour en 2013, avec des appendices assez importants. Cette édition comprend notamment, outre une chronologie, la préface de Balzac à l'édition de 1830 et une importante présentation de Nadine Satia. Bref, c'est une excellente édition dans laquelle vous trouverez également une petite interview de Jean-Marc Parisi qui, je l'espère, ne fera pas double emploi avec notre rencontre aujourd'hui.
Si, je l'ai apprise par cœur, comme je n'ai aucune imagination.
Nous sommes dans un théâtre, c'est très bien, donc il a répété, moi je me contenterai, alors j'improviserai sur son canevas, et tout ça pour un prix qui est de plus en plus dérisoire par rapport au paquet de cigarettes, parce que plus les années passent, et plus les paquets sont chers, et moins les livres le sont. Donc voilà, l'affaire devient de plus en plus excellente, pour 4 euros, bon, c'est quand même effarant, pour 4 euros, vous pouvez vous offrir cet excellent Balzac, qui donc, entre parenthèses, suit le texte dit du Furne corrigé. Ce n'est pas tout à fait la première édition, c'est la dernière édition revue par Balzac. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, là encore, si je n'oublie pas. Mais Jean-Marc Parisi, il est temps que je vous laisse la parole et le soin de présenter les extraits que vous souhaitez nous lire aujourd'hui.
Alors, je pense que je vais commencer par lire. On peut s'adresser au public. Et
on improvise, absolument. Nous sommes entre nous.
Je vais commencer par lire et puis je laisserai le silence s'installer. Et peut-être d'autres choses viendront après. Le premier passage, c'est le marchand de... un vieux marchand de curiosité qui s'adresse au héros de La peau de chagrin. Le héros de La peau de chagrin s'appelle Raphaël de Valentin, et le marchand de curiosité va lui céder cette La peau de chagrin. Et ça, c'est le discours du marchand de curiosité à Raphaël. Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort, vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l'action humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois le bonheur de ma longévité. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi, le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée. Le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes. En deux mots, j'ai placé ma vie non dans le cœur qui se brise, non dans les sens qui s'émoussent, mais dans le cerveau qui ne s'use pas et qui survit à tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de intéressant parce que c'est d'une certaine façon, c'est un marchand de curiosité, mais il parle exactement comme un écrivain. En tout cas, ce qui pour moi est un écrivain. Rien d'excessif n'a froissé ni mon âme, ni mon corps. Cependant, j'ai vu le monde entier. Mes pieds ont foulé les plus hautes montagnes de l'Asie et de l'Amérique. J'ai appris tous les langages humains et j'ai vécu sous tous les régimes. J'ai prêté mon argent à un Chinois en prenant pour gage le corps de son père. J'ai dormi sous la tente de l'Arabe sur la foi de sa parole. J'ai signé des contrats dans toutes les capitales européennes. Enfin, j'ai tout obtenu parce que j'ai tout su dédaigner. Ma seule ambition a été de voir. Voir, n'est-ce pas savoir ? Oh, savoir, jeune homme, n'est-ce pas jouir intuitivement ? N'est-ce pas découvrir la substance même du fait, s'en emparer essentiellement ? Que reste-t-il d'une possession matérielle ? Une idée. Jugez alors combien doit être belle la vie d'un homme qui, pouvant empreindre toutes les réalités dans sa pensée, transporte en son âme les sources du bonheur, en extrait mille voluptés idéales, dépouillées des souillures terrestres. La pensée est la clé de tous les trésors, elle procure les joies de l'avare, sans en donner les soucis. Aussi ai-je plané sur le monde où mes plaisirs ont toujours été des jouissances intellectuelles. Mes débauches étaient la contemplation des mers, des peuples, des forêts, des montagnes. J'ai tout vu, mais tranquillement, sans fatigue. Je n'ai jamais rien désiré. J'ai tout attendu. Je me suis promené dans l'univers comme dans le jardin d'une habitation qui m'appartenait. Ce que les hommes appellent chagrin, amour, ambition, revers, tristesse, sont pour moi des idées que je change en rêverie. Au lieu de les sentir, je les exprime, je les traduis. Au lieu de leur laisser dévorer ma vie, je les dramatise, je les développe. Je m'en amuse comme de romans que je lirais par une vision intérieure. N'ayant jamais lassé mes organes, je jouis encore d'une santé robuste. Mon âme ayant hérité de toute la force dont je n'abusais pas, cette tête est encore mieux meublée que ne le sont mes magasins. Là, dit-il en se frappant au front, là sont les vrais millions. Ça m'intéresse parce que chez Balzac, qui est un malin quand même, vraiment un écrivain malin, il y a toujours un moment dans ses romans, un passage où, d'une certaine façon, il aborde, de manière détournée ou non, l'acte d'écrire et son propre travail, sa propre poétique, en quelque sorte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un marchand de curiosité, c'est un vieux monsieur qui parle, mais finalement, de pouvoir voyager de pays en pays par la rêverie, de pouvoir ne rien vouloir, ne rien pouvoir, mais tout penser, c'est pour moi le grand privilège de l'écrivain. Alors, il y a quand même une différence absolue, c'est que il y a quand même quelque chose de très fatigant dans l'écriture. C'est qu'il faut écrire. C'est peut-être la différence entre le marchand de curiosité et l'écrivain, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'imaginer, il s'agit aussi de mettre en forme.
Alors, à mesure que vous disiez ce passage-là, qui est effectivement un passage très frappant, Jean-Marc Parisi, je me remémorais la situation, je revoyais ce très mystérieux vieillard qui se tient au seuil de l'entrée dans le fantastique, parce que la peau de chagrin est aussi un conte fantastique à certains égards. Enfin, c'est une peau qui a plusieurs surfaces. C'est un conte fantastique qui se retourne en roman comme un gant et vice-versa. Enfin, pour en revenir à ce vieillard, ce qui m'a frappé, c'est que vous y ayez reconnu une figure de l'écrivain, une figure de ce que vous êtes. Et alors que moi, j'y ai reconnu une figure de ce que je suis moi-même, peut-être, à savoir plutôt un lecteur. J'ai eu le sentiment que, précisément cet étrange vieillard. Il dit « Ce que les hommes appellent chagrin, amour, ambition, revers, tristesse sont pour moi des idées que je change en rêverie. Au lieu de les sentir, je les exprime. N'étant pas écrivain, je n'en sais rien, mais enfin, l'écrivain que je m'imagine est quelqu'un qui, pour une part ou sur un certain plan, néanmoins, sent tout de même, fait l'expérience sensible de ce qu'il exprime. » Je les traduis, au lieu de leur laisser dévorer ma vie, je les dramatise, je les développe, je m'en amuse comme de romans que je lirai par une vision intérieure.
Oui. Mais c'est pas contradictoire.
Non, c'est pas contradictoire.
C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire pour une autre raison, c'est que la notion de vision intérieure est chez Balzac pour moi essentielle. Il est bien évident que la notion notamment de voyance, c'est une, à mon avis, une des clés du mystère de l'œuvre gigantesque de Balzac. Pour une raison simple, c'est que si l'on songe à sa courte vie, si l'on songe à tout ce qu'il a écrit, matériellement, il n'avait pas le temps de vérifier. Et il n'avait pas le temps de... C'est pour ça que c'est pas forcément un écrivain. C'est un écrivain réaliste, mais c'est aussi un écrivain d'ordre fantastique. C'est que...
Visionnaire.
C'est que, évidemment, il avait des dons de voyance, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin, justement, à mon avis, d'éprouver tout pour pouvoir tout écrire. Et ça, c'est la force, c'est la force absolue. Pour le reste, oui, mais vous savez, un écrivain a intérêt à être son propre lecteur. Hein. Parce que je peux vous dire que je connais quelques écrivains qui ne se relisent pas. Et ça donne ce que ça donne. Donc, mais c'est intéressant. Comme quoi, c'est quand même un type tout à fait, Balzac est un homme tout à fait généreux, puisque quand on le lit, un écrivain peut penser à lui, et le lecteur peut penser à ce qu'il est en tant que, à ce qu'il est en tant que lecteur.
Voilà. Une autre question que votre lecture a suscité en moi, toujours à partir de cette question de l'écrivain, ou du lecteur d'ailleurs, cet homme, ce vieillard, a choisi une troisième voie entre le vouloir et le pouvoir, c'est le savoir, donc qui intervient curieusement comme moyen terme, dans un intervalle entre vouloir et savoir. Ce n'est pas simplement un troisième terme qui viendrait compléter le tableau des possibilités, mais une sorte de ligne d'équilibre ou de ligne de faille qui seule permettrait de s'en tirer dans l'existence et de ne pas s'épuiser, de ne pas dépenser son capital d'énergie ou d'existence. Le savoir avant tout. Et ce savoir s'inscrit dans le cerveau. L'organe du savoir, c'est le cerveau. C'est d'ailleurs là que vous avez dit que vous reconnaissiez l'écrivain, dans cette façon de placer le cerveau par-dessus tout. Ce serait l'organe premier, plus que le cœur ou d'autres que je me garderai de nommer ici. Mais si le savoir est le bien le plus haut, la forme d'existence la plus précieuse, aux yeux de ce marchand de curiosité, pourquoi donc est-il marchand de curiosité? Pourquoi avoir accumulé tous ces objets? Pourquoi avoir créé cette grotte à plusieurs étages en plein Paris, où il a empilé, ça donne lieu chez Balzac à des pages étourdissantes, où il a empilé des trésors venant de partout et datant de tous les siècles? Quel lien y a-t-il entre cette accumulation de possessions quand même matérielles et cette affirmation que la véritable possession, elle, c'est celle de l'idée?
N'oublie pas ce qu'ils disent sur la notion de voir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il veut les voir. Voilà. Je crois que c'est... Il ne s'agit pas simplement de s'en souvenir ou de se les remémorer. Il veut les voir. Encore une fois, c'est bizarre parce que c'est vraiment un segment c'est un avant-goût de la peau de chagrin. En fait, l'histoire n'a pas encore vraiment commencé et on s'y arrête. Ce passage m'avait troublé pour une autre raison, et en ce sens-là, j'en reviens à cette histoire de métaphore de l'écriture et aussi de l'état d'écrivain, c'est que on a manifestement affaire à quelqu'un qui ne veut pas souffrir ou qui met la distance la souffrance à distance. Je pense que c'est essentiel. Le savoir, c'est pour moi le savoir-être. C'est-à-dire que je vais dire que d'une certaine façon, l'écrivain n'a pas à... Il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser avoir par la souffrance. Paradoxalement, il ne faut pas se laisser avoir par les émotions. Il ne faut pas se laisser avoir par... au nom même de son don, en fait, en quelque sorte. Il faut être... il faut mettre à distance. Et la notion, des yeux est intéressante pour ça. C'est-à-dire que, en gros, il suffit de voir. Il ne faut pas toucher. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas toucher. Il faut voir, penser avec les yeux. Mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin dans la vie. Il ne faut pas aller presque même trop loin dans les rapports, au risque de s'y laisser prendre, au risque de s'y laisser happer et au risque de disparaître. Je pense que cette histoire de marchand de curiosité est intéressante parce que le marchand de curiosité, il est aussi un peu comme l'écrivain, c'est-à-dire qu'il est au bord de la vie, en surplomb de la vie, pour pouvoir, de manière générale, la contempler. On n'est pas là pour... pour expérimenter. Si on veut avoir un peu un accès à l'universel, il faut avoir un spectre extrêmement large. Sinon, on fait de l'écriture privée, sinon on raconte sa petite histoire. On est là d'une certaine façon pour écrire le monde. Alors ça peut être un monde intérieur, ça peut être un monde intime, mais c'est large. Voilà. Et le marchand de curiosité, même s'il a ses... C'est justement parce qu'il a ses objets au mur, parce qu'il a finalement son musée mental devant lui, en quelque sorte. J'en reviens à cette notion de, voilà, d'écriture. C'est un écrivain sans livre, en quelque sorte. Voilà.
Parce que cette étrange figure, parle de son avarice. Il se présente dans son autoportrait comme jouissant d'une sorte d'avarice sublime. La pensée est la clé de tous les trésors. Elle procure les joies de l'avare sans en donner les soucis. Ouais. Donc, vous l'avez dit, il ne faut... pour atteindre une certaine richesse, il y a une richesse, plus exactement, qu'on atteint qu'à la condition de ne pas porter la main dessus, à la condition de ne pas toucher, de rester à distance.
Après, évidemment, je veux dire, tout ça, c'est la vie qui décide, mais ça doit être... c'est la pour moi c'est la position, voilà, c'est-à-dire ne pas peut-être ne pas trop tomber, je dis tomber à dessein, ne pas trop tomber dans la vie. Si Balzac était trop tombé dans la vie, ou si Balzac n'avait pas à un moment ou à un autre décidé d'y échapper à la vie, il aurait pas écrit. Il y a des choix à faire. C'est pour le marchand de curiosité.
Mais le fait est que ce marchand de curiosité, c'est un voyageur. Son expérience, il l'a accumulée, il ne l'a pas imaginée.
Oui, mais alors on ne sait pas, justement. Parce qu'on ne sait pas si, en fin de compte, quand il parle, justement, des montagnes, des paysages, on ne sait pas, finalement, s'il les a traversés réellement ou s'il les a simplement imaginés. C'est pas dit. En tout cas, je ne l'ai pas lu comme ça, moi. Je ne l'ai pas lu comme ça. Bon, ça, c'est le marchand de curiosité. C'est par là que... on pourrait peut-être passer à Raphaël, parce que lui, il est pas mal aussi.
Très volontiers.
Dans son truc. La peau de chagrin, c'est quoi? La peau de chagrin, c'est quelqu'un qui... C'est l'histoire de quelqu'un qui... en gros, ça commence comme ça. C'est un jeune homme qui sort d'un tripot du palais royal et qui a tout perdu. Qui a perdu son argent. Et il sort avec... cette envie, finalement, c'est dit plus ou moins dans le livre, d'en finir. Hein. La scène est toujours là pour accueillir les gens comme lui. En fait, Nerval a eu des pages aussi là-dessus. Dans un texte, Nerval dit « Arrivé place de la Concorde, ma pensée était de me supprimer. » La scène appelle toujours ce genre de personnage. Et en fait, finalement, il rentre presque par hasard dans un magasin de curiosité. Alors qu'est-ce que ça peut être? Antiquaire, en fait, hein, c'est ça. Et un marchand lui propose, ce qu'il voit au départ, hein, qu'est-ce que c'est que la peau de chagrin? C'est une peau d'âne, en fin de compte. Hein. Et il va... le marchand va lui céder, en l'avertissant plus ou moins de quelque chose. C'est-à-dire que C'est une peau qui a le privilège, le pouvoir, tant qu'elle est avec vous, d'exaucer tous vos désirs, toutes vos volontés. Le prix à payer, c'est que plus elle exauce vos désirs, plus elle rétrécit. Et plus elle rétrécit, et plus elle diminue votre vie, voilà, votre chance de vie, vos chances de vie. Et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, qu'il y a cette phrase, « vouloir nous brûle hein, », c'est que... Voilà. Et alors, tout le livre est là-dessus. C'est un livre intéressant dans l'œuvre de Balzac parce que ça fait partie de ces quelques livres vraiment fantastiques, au sens premier du terme, que Balzac a écrit. On n'est pas dans le registre, comment dirais-je, purement social, réaliste, même si c'est jamais purement. Mais en tout cas, on n'est pas dans le registre social et réaliste de la plupart des livres de la communauté humaine. On est dans un roman presque de, oui, c'est ça, de science-fiction. En tout cas, fantastique. Et puis en venant ici, en fait, finalement, je me suis posé la question parce que je pensais à ce Raphaël et je me disais, mais finalement, quand il sort du tripot, il n'est pas bien. Mais a-t-il jamais été bien ? C'est-à-dire que dans le livre, à un moment, Balzac dit que c'est un personnage qui est ivre de vie et ivre de mort. Et que c'est évidemment un livre fantastique, mais que finalement, je me dis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que peut-être qu'il n'avait pas besoin. En fait, finalement, cette peau de chagrin, il faut qu'elle soit là parce que c'est un objet romanesque, mais qu'en fait, il l'avait en lui. C'est-à-dire que je pense que l'ADN de Raphaël de Valentin, c'était d'en finir. C'était de mourir d'une manière ou d'une autre. On sent que c'est quelqu'un qui n'est... Je le dis dans le texte, dans le questionnaire, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas fini et qui n'est pas armé pour vivre. Je veux dire, il se fait quand même manipuler grandement par une femme. Il est incapable d'aller au bout d'une étude qu'il a entreprise d'un livre, en fait, tout simplement. Et c'est le prototype du viveur, du personnage velléitaire, honnête, hein, c'est pas un méchant garçon, mais c'est quelqu'un qui est manifestement du côté de ceux qui vont partir, mourir, jeune. Et le texte est troublant parce que généralement chez Balzac, on retrouve les personnages. Dans le cas de la peau de chagrin, Raphaël, c'est une comète. Évidemment, il meurt à la fin. Hein. J'ai pas... On ne le revoit plus. Fedora, on ne la revoit plus non plus. C'est-à-dire que, bizarrement, on a affaire à des personnages sur essentiellement un livre. Généralement, les personnages de Balzac sont les destins se croisent, reviennent. Même quand on les a perdus, ils reviennent. Là, non. Donc, ça m'intéressait également de travailler sur cette peau de chagrin parce que, pour une autre raison, c'est que je suis pas spécialement un auteur qui aime la science-fiction ou les romans fantastiques, mais dans ce cas-là, ce qui m'a intéressé, c'est que Balzac utilisait... Moi, je pense que la fiction a tous les droits, à condition de les utiliser. Et Balzac, en fin de compte, là, nous embarque dans quelque chose d'absolument incroyable, et ça marche tout le temps. Et si ça marche tout le temps, alors que c'est incroyable, eh bien, peut-être faut-il en déduire que, en fait, finalement, cette peau de chagrin, qui est à la fois l'objet principal et le titre du livre, n'était pas si important. Parce que, à la limite, il n'aurait pas eu... Raphaël allait vers la mort, de toute façon. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un principe de magie que d'avoir glissé quelque chose qui paraît important, alors que quand vous avez terminé le bouquin, vous dites, mais finalement, on n'en avait pas besoin. Ça, c'est la magie d'un écrivain tel que lui. Voilà.
Moi, ce qui m'a frappé, effectivement, en relisant cette peau de chagrin, qui était, comme souvent avec Balzac, plutôt un souvenir d'adolescent, un souvenir de lecture d'adolescence. Quand on aime lire, on découvre Balzac vers cet âge-là, souvent, puis on s'embarque vers d'autres horizons. On en a lu une dizaine, et puis on passe à Flaubert, et de là, C'est le grand océan du roman. On revient à Balzac plus tard et on constate qu'il est lui-même un océan, en effet. Très, très varié, très profond, très changeant. C'est un de mes préférés. Plus je le relis, plus c'est un de mes préférés, jusque dans ses imperfections, parce qu'il est un écrivain effectivement d'une force, d'une vitalité extraordinaire. Ça me touche que vous parliez du début suicidaire de Raphaël de Valentin, que j'ai lu personnellement comme une des figures que Balzac a dû tuer sous lui, d'une certaine façon. C'est un de ses doubles qu'il a dû exorciser pour pouvoir écrire tout ce qu'il a écrit. Et en retravaillant et en relisant La peau de chagrin, après vos remarques liminaires, il m'a semblé que c'était comme une sorte de bulle, que tout le roman était une sorte de bulle très irisée, ronde comme le monde, luisant comme une perle, chatoyante de mille couleurs, et contenant tout un monde. Ça commence d'ailleurs avec cette extraordinaire boutique de curiosités qui résume les trésors du monde entier. Et pourtant, cette bulle n'est rien. Elle est vide. Elle est prête à éclater à la moindre pointe. Et ce qui le figure effectivement, c'est que c'est un roman qui commence avec un personnage prêt à se tuer, que rien ne sépare de sa mort, de son suicide, qui rentre par hasard, juste avant de se jeter dans la Seine, dans une boutique de curiosités qui se trouve sur les quais, au bord même de la Seine, et qui là, par hasard, mais ce hasard, comme vous dites, il le porte en lui comme un ADN, va tomber sur cette peau, sur cette très mince peau, qui va être la seule petite paroi qui va le séparer de son suicide, qui néanmoins va advenir, parce que trouver la peau, ça n'est jamais qu'une autre façon détournée de parcourir le grand cercle qui finira par le conduire à ce point final.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage qui arrive, qui est déjà mort, pour moi. C'est-à-dire que donc la peau, c'est la sienne, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va vers lui-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous parlez de bulle, je trouve que c'est un très beau... C'est très juste parce que quand je pense à une bulle, je pense également à une forme de... vous parlez d'irisé, mais c'est aussi une forme de fantaisie. Il y a de la fantaisie. D'ailleurs, la fin est une fin de compte où, d'une certaine façon, il y a des. On ne peut pas tout dire, mais Balzac se demandait alors et quel est. Qu'est devenu Pauline ou qu'est devenu un tel ou un tel, en fin de compte, alors qu'il devrait, d'une certaine façon, en donner les clés et qu'il devrait l'écrire, il s'amuse presque avec le lecteur. Voilà. Qu'est devenu Pauline ? Alors je vais vous le dire, mais bon, voilà. Donc on est effectivement dans le registre du conte. Sur la fascination qu'on peut éprouver pour Balzac, qui est la vôtre, qui est la mienne, est-ce que vous pouvez me permettre de lire un autre passage ? Parce que c'est le. Alors c'est pas un passage du texte proprement dit. C'est un passage de la préface de Balzac pour la première édition en août 1831. Et là encore, c'est formidable parce que voilà encore quelqu'un qui, sans parler tout à fait de lui, nous indique exactement qui il est. Beaucoup d'hommes distingués sont doués du talent d'observer, sans posséder celui de donner une forme vivante à leur pensée. Comme d'autres écrivains ont été doués d'un style merveilleux, sans être guidés par ce génie sagace et curieux qui voit et enregistre toutes choses. De ces deux dispositions intellectuelles résultent, en quelque sorte, une vue et un toucher littéraire. À tel homme, le faire, à tel autre, la conception. Celui-ci joue avec une lyre sans produire une seule de ces harmonies sublimes qui font pleurer ou penser. Celui-là compose des poèmes pour lui seul, faute d'instrument. La réunion des deux puissances fait l'homme complet, mais cette rare et heureuse concordance n'est pas encore le génie, ou plus simplement, ne constitue pas la volonté qui engendre une œuvre d'art. Et là, voilà, Balzac se donne la définition de lui-même, sans le dire évidemment, parce qu'il est quelqu'un de tout à fait poli et humble. Outre ces deux conditions essentielles au talent, il se passe chez les poètes ou chez les écrivains réellement philosophes un phénomène moral inexplicable, inouï, dont la science peut difficilement rendre compte. C'est une sorte de seconde vue qui leur permet de deviner la vérité dans toutes les situations possibles, ou mieux encore, Je ne sais quelle puissance qui les transporte là où ils doivent, où ils veulent être. Ils inventent le vrai, par analogie, ou voient l'objet à décrire, soit que l'objet vienne à eux, soit qu'ils aillent eux-mêmes vers l'objet. C'est exactement ce que je disais au début sur cette notion de, voyance et d'économie de vie, parce qu'on a ce don-là, qui fait que on peut tout à fait se permettre d'écrire la vie sans la vivre, d'une certaine façon. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un autre passage aussi que je veux lire, parce que, pour rebondir sur des questions qui touchent malheureusement à la littérature aujourd'hui, à savoir la confusion généralisée, de plus en plus fréquente, entre le narrateur et l'auteur, c'est-à-dire en fait finalement entre un écrivain et ses personnages, Balzac en 1830 ou en 1831 connaissait déjà le problème et y répondait déjà. Alors si vous me permettez, je lis ça aussi. Il y a sans doute beaucoup d'auteurs dont le caractère personnel est vivement reproduit par la nature de leur composition et chez lesquels l'œuvre et l'homme sont une seule et même chose. Mais il est d'autres écrivains dont l'âme et les mœurs contrastent puissamment avec la forme et le fond de leurs ouvrages, en sorte qu'il n'existe aucune règle positive pour reconnaître les divers degrés d'affinité qui se trouvent entre les pensées favorites d'un artiste et les fantaisies de ses compositions. Cet accord ou ces disparates sont dus à une nature morale aussi bizarre, aussi secrète dans ses jeux que la nature est fantasque dans les caprices de la génération. La production des êtres organisés et des idées sont deux mystères incompris, et les ressemblances ou les différences complètes que ces deux sortes de créations peuvent offrir avec leurs auteurs prouvent peu de choses pour ou contre la légitimité paternelle. Pétrarque, Lord Byron, Hoffmann et Voltaire étaient les hommes de leur génie, tandis que Rabelais, homme sobre, démentait les goinfreries de son style et les figures de son ouvrage. Il buvait de l'eau en vantant la purée septembrale. La purée septembrale, en fait, c'est le vin. Comme Brillat-Savarin, mangeait fort peu, tout en célébrant la bonne chère. Il est très facile de multiplier les exemples de ces désunions et de ces cohésions caractéristiques entre l'homme et sa pensée. Mais ce double fait est si constant qu'il serait puéril d'insister. Et là, j'insiste, Balzac pose la question, y aurait-il donc une littérature possible si le noble cœur de Schiller devait être soupçonné de quelque complicité avec François Moore, la plus exécrable conception, la plus profonde scélératesse que jamais dramatiste ait jamais jetée sur la scène? C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant parce que c'est déjà...
Comme Balzac, vous répondez non.
Hein?
Comme Balzac, vous répondez non. Il n'y aurait aucune littérature
possible. Il n'y aurait aucune littérature possible. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, où la confusion, pour plein de raisons, se fait de plus en plus massive, pénible, la plupart du temps, entre un écrivain et ses livres, en fait, en quelque sorte. On serait censé ne jamais écrire que ce que l'on est soi, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Je trouvais que Balzac se soit déjà posé la question, et qu'il ait déjà, d'une certaine façon, été victime de cette confusion, il y a presque 200 ans, donnait de l'espoir. C'est-à-dire que finalement, les choses en littérature surproduisent, les malentendus surproduisent tout le temps. Voilà. Et finalement, Balzac nous aide à les traverser. Voilà, on peut se sentir un peu
plus sereinement.
Un peu plus serein, ouais, un peu plus serein. Et c'est un, en ce sens, c'est un bon ami, quoi. C'est un bon complice pour ça. C'est important parce que la confusion, parce qu'il y a plein de passages là-dessus, hein, la confusion entre l'auteur et le narrateur, comme la confusion entre l'auteur et son personnage, c'est dramatique. C'est dramatique parce que d'un côté, ça prive en fait, ça prive l'auteur de toute sa puissance démiurgique et de toute sa puissance justement asociale, c'est-à-dire que un auteur est littéralement quelqu'un qui écrit ce qu'il veut et qui n'a pas à rendre compte d'une manière ou d'une autre, je veux dire d'une réalité. J'ai écrit dans un autre petit livre qui s'appelle La mort de Jean-Marc Roberts que le seul véritable personnage d'un livre, c'est l'écriture, c'est le style. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que la seule personne, la seule voix d'un livre, qui soit une voix qui soit irréductible, qui soit une voix où, justement, l'intérêt c'est qu'on ne puisse pas l'écouter ailleurs. L'intérêt c'est qu'on ne puisse pas l'entendre ou la croiser dans la rue, c'est évidemment le style. Balzac peut tout à fait nous raconter une histoire de peau de chagrin. S'il n'écrit pas comme Balzac, on n'en a strictement vraiment rien à faire. Et donc, voilà, ça m'intéressait aussi de réfléchir à cette notion de pouvoir de l'écriture dans un monde qui me semble de moins en moins mériter l'imagination.
Voilà. Alors, toujours à propos de cette préface de 1831, où Balzac dresse effectivement une sorte d'autoportrait discret de son propre génie ou de sa propre puissance, il parle de trois qualités, dont la troisième est inexplicable, prodigieuse. Il faut une force de conception, mais le cerveau peut alors être déconnecté de la main. Il faut une force d'expression ou de langage, mais alors la phrase est peut-être déconnectée de la pensée. Et il y a des gens qui ont une qualité et qui n'ont pas l'autre. Et Balzac, si je me rappelle bien le passage que vous avez choisi de lire, Balzac dit, bon, alors si on joint les deux, si on connecte le cerveau et la main, la conception et l'expression, est-ce que ça suffit? Et Balzac, assez, de façon surprenante, répond non.
Non,
ça ne suffit pas.
Il y a
un troisième ingrédient, voilà. Inexplicable, inouï, mystérieux, qui est de l'ordre de la volonté.
C'est un
rapport avec ce que vous dites, qui est d'une volonté qui invente la vérité.
Oui, c'est-à-dire, alors, la réunion des deux puissances fait l'homme complet, mais cette rare et heureuse concordance n'est pas encore le génie, ou tout simplement ne constitue pas la volonté qui engendre une œuvre d'art. La marque du génie, c'est ce que vous dites, c'est une sorte de seconde vue qui leur permet de deviner la vérité dans toutes les situations possibles, ou mieux encore, je ne sais quelle puissance qui les transporte là où ils doivent, où ils veulent être. Et c'est un phénomène moral, inexplicable, inouï, dont la science peut difficilement rendre compte. Moi, ça me plaît beaucoup, cette histoire qu'on ne puisse pas réduire l'écrivain à une analyse scientifique. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là que, c'est un bonheur quotidien, finalement, même si, c'est un bonheur quotidien de se dire qu'on peut écrire des livres. C'est qu'on a véritablement l'impression d'échapper à tout, qu'on vient d'ailleurs, et que on ne sera jamais expliqué. C'est-à-dire qu'on est, un mystère. Et c'est le mystère, en fin de compte, qui, à la fois, nous permet d'écrire et nous protège, en fait, en quelque sorte. Parce que, encore une fois, j'en reviens... Balzac, en ce sens-là, d'ailleurs, au premier sens du terme, c'est un monstre. C'est-à-dire que, scientifiquement, presque, n'importe quel autre homme constitué comme normalement n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Là, on est dans l'ordre de la transcendance, on est dans l'ordre d'une forme de monstruosité, mais au bon sens du terme, d'exception, de magie. Ça me plaît parce que dans un monde où on voudrait à la fois tout expliquer, mais c'est surtout dans un monde où, et ne le prenez pas pour vous ni pour moi, dans un monde où, d'une certaine façon, on aurait tendance à mettre l'auteur au niveau du lecteur et le lecteur au niveau de l'auteur, eh bien non. Il faut affirmer les puissances de l'auteur comme il faut affirmer la liberté du lecteur. C'est pas pareil. Un lecteur, c'est pas un auteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, évidemment, mais bon. Et l'auteur, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose que le lecteur. Il y a quelque chose d'irréductible. Et je trouve que c'est pas mal de l'affirmer comme Balzac l'affirme, c'est-à-dire sans prétention, sans notion de supériorité. C'est autre chose. Je veux dire que je sais pas la question du bonheur de Balzac, on peut se la poser ou pas. Est-ce que ce type qui a vécu 51 ans dans des conditions parfois extrêmement extrêmement dures, je dirais, en même temps ça a été un viveur, ça a été un jouisseur, mais ça a été aussi un homme extrêmement fatigué, affaibli. Est-ce que c'était une vie heureuse? Est-ce que c'était pas une vie heureuse? Peu importe. Il était enchaîné à son travail. Et oui, il est important dans ces cas-là, comme il le fait, de dire attention. Au nom du plaisir que je vais vous donner, au nom de ce que j'écris, pour vous, parce que c'est pour vous, je suis absolument différent de vous. Ça, je trouve ça formidable, parce que c'est à la fois mêlé à la fois le partage à la différence. Voilà. Et je trouve, et c'est ce que j'aime chez Balzac, en tout, parce que là, on n'est pas en train de parler trop de la peau de chagrin, mais moi qui aime Balzac depuis longtemps et pour plein d'autres livres, il a jamais séparé en fait ses livres d'une réflexion sur ce qu'était la littérature, d'une réflexion sur ce qu'était la création, d'une réflexion sur ce qu'était le livre au niveau social, la réception sociale du livre. Il a évidemment beaucoup écrit sur les éditeurs, mais il a beaucoup écrit sur la presse aussi, en disant ce qu'on en sait. C'est-à-dire, souvent, il suffit de voir Illusion perdue, hein, tout simplement. Ça me semble, c'est ça qui me passionne chez lui aussi, c'est que c'est toujours une... Il s'oublie quand il écrit, et en même temps, il ne s'oublie pas dans son... Je sais pas, dans son métier, dans son identité.
Cette puissance propre de l'écrivain dont vous parlez, ouais. Cette puissance propre de l'auteur, ouais. Plutôt... Balzac la rapporte à une certaine volonté, une volonté de vérité, mais pas n'importe quelle vérité, justement, pas une vérité constatée, pas une vérité scientifique, pas une vérité objective qui existerait déjà et qu'on n'aurait qu'à aller chercher ou cueillir dans un réel déjà constitué, mais une vérité que son regard même invente, que le regard visionnaire du romancier crée. Créé pour le lecteur, du coup. Dans tout ce que vous dites, j'ai l'impression que vous souscrivez entièrement à cette conception-là de la vérité, qui est la seule, qui serait pour vous apparemment la seule vérité recevable en fiction.
Oui, je verrais plutôt ça du côté de la...
Parce que j'ai l'impression... que vous parlez dans la mort de Jean-Marc Roberts, vous citez une femme, sans la nommer, heureusement pour elle, qui dit à propos de Jean-Marc Roberts, après sa mort, maintenant qu'il est mort, je vais écrire et je vais dire toute la vérité.
Ouais.
Justement, toute la vérité. Je vais balancer, je ne sais pas balancer, mais l'idée y est, je pense. Je vais dire toute la vérité sur lui. Comme si, effectivement, la vérité était déjà faite, enfermée dans un réel dont elle n'aurait qu'à sortir, pour peu qu'on la consigne, comme sous la dictée d'une réalité.
Non, mais c'était, en plus, c'était sans doute sa petite vérité. On n'est pas dans la vérité romanesque. On n'est pas. C'est autre chose. Là, c'était sans doute sa vérité, sa petite histoire. Balzac, c'est jamais la petite histoire. Jamais. On s'en moque. En fait, finalement, je crois qu'on s'en moque de la vérité quand on écrit. La question n'est pas là. Moi, j'en reviens à cette notion de vue. J'en reviens à cette notion d'œil qui pense. J'en reviens à cette notion de style. L'important, c'est de faire en sorte, quand on écrit, l'important, c'est de faire en sorte de proposer un regard qui n'a jamais été proposé. C'est-à-dire que, en fait, finalement, c'est l'originalité de la vue qui compte. Et l'originalité de la vue, c'est ce qui fait le style. C'est pas l'originalité du sujet, je veux dire. Les sujets, c'est toujours à peu près les mêmes. En revanche, la qualité de l'œil, c'est-à-dire que tout simplement, pour moi, l'œil écrit, hein, tout simplement. Hein, je veux dire, chez Balzac, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on est plus. C'est pas tant de la pensée qu'une espèce de. C'est pour ça que j'aime tant Ragon aussi. C'est pour ça que j'aime tant la poésie. C'est que, je veux dire, qu'il suffit simplement de. Je pense que l'œil peut écrire simplement. C'est-à-dire qu'il suffit de la. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la vue au départ. L'œil coule. Voilà. Et pour moi, l'œil coule pas de larmes, mais il coule de mots. L'œil est un organe pour moi qui parle. Voilà, c'est un organe qui dit. Voilà, tout simplement. Il y a le langage des yeux. La première chose que vous rencontrez chez une personne que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais la première chose que vous aimez sans doute chez une personne, c'est son regard, hein, avant toute chose. Le regard a quelque chose du livre, tout simplement. Voilà. Et on, tout à l'heure, on peut faire... vous m'avez proposé de regarder le théâtre de l'Odéon, qui était vide, et puis qui n'était pas vide finalement, parce que la première réflexion qui m'est venue, et je vous l'ai dit, c'est effectivement, il était vide, la scène était prête, mais il n'y avait personne, mais on sentait, étrangement, on sentait les yeux invisibles. C'est très bizarre, c'est-à-dire que au-dessus des sièges vides planaient, de toute façon, les regards, et pas simplement les regards d'hier ou d'avant-hier, planaient tous les regards qui s'étaient posés dans la salle et sur la scène depuis sa création. Alors c'est peut-être ça finalement. Alors là-dessus, donc peu importe la vérité, je veux dire, c'est pour ça que j'aimais bien Jean-Marc Roberts, pour parler de lui, c'est que la vérité, on s'en fout, il n'y en a pas. Qui peut la dire ? En revanche, la qualité de l'œil, les irisations dont vous parlez, les couleurs, écrire c'est quoi ? C'est tout simplement toujours inventer des couleurs, toujours. C'est toujours peindre. Je veux dire, on parle de Balzac
parce que c'est un dernier roman.
Absolument.
La recherche de la couleur.
Ouais, ouais.
C'est de ça que vous parlez.
Toujours.
Alors.
C'est toujours. C'est-à-dire.
C'est ça que vous appelez ailleurs le réel.
Le
réel. Par opposition à cette vérité que vous semblez rejeter, alors que c'est, je parlais d'une vérité justement à inventer par l'œil.
Ben voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, la notion de réel me gêne au sens où elle serait déjà préétablie. Le réel, c'est ce que, d'une certaine façon, c'est ce que vous écrivez. Je veux dire, le réel, c'est ce que vous voyez. Il n'y a pas de réel préexistant à l'œil, il n'y a pas de réel préexistant au langage, il n'y a pas de réel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout ça est une espèce d'immanence. On crée tout ça tout le temps, et c'est ce qui donne, d'une certaine façon, un bon livre. Voilà. Les gens qui copieraient, on n'est pas là pour copier le réel, on n'est pas là pour enregistrer et pour ensuite après faire un travail de greffier qui consisterait d'une certaine façon à dire « Ah, il a dit ça, on va le répéter ». On n'est pas des rapporteurs, on n'est pas des... Voilà, on n'est pas des... Comment,
Des greffiers,
on n'est pas... voilà, on est tout simplement des gens qui se disent « Tiens, finalement, cette phrase se tient si bien qu'elle est sans doute vraie ». Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous le sentez. Vous le sentez à l'oreille, vous le sentez au regard, vous le sentez au regard de l'autre quand vous la lisez, la phrase. Voilà. Vous avez certainement vu parfois la couleur des yeux se modifier au son d'une phrase que vous lisiez. C'est ça.
Donc c'est en ce sens-là qu'il faut entendre ce que vous vouliez dire quand vous écrivez en quatrième de couverture de La mélancolie des fast-foods.
Ça, c'est un... J'étais jeune.
Non, mais ça, la quatrième est plus récente, puisque, au contraire...
Ah oui, 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 c'est vrai, oui.
Oui, la quatrième, elle, le relisant plus de 20 ans après, etc. Donc, voilà.
Ouais. La quatrième, vous voyez que je me relis aussi.
Oh, oui, elle en témoigne, justement. Elle parle de, finalement, un texte visionnaire après deux décennies passées. Ouais, voilà. Vrai. Et vous dites, j'ai toujours pensé que le roman devait déchiffrer le réel.
Ouais.
Déchiffrer, effectivement. Non pas écrire sous sa dictée, non pas d'écrire,
non.
Mais déchiffrer.
Ouais, ouais.
Et c'est en quoi le réel et le style, finalement, pour vous, s'entre-impliquent. L'un ne peut pas aller sans l'autre,
non,
par l'auteur.
Non, et je dirais que le style, c'est peut-être... Tout ça, c'est quand même... Balzac oublie peut-être quelque chose, pardonne-moi Honoré, mais tu oublies peut-être quelque chose, c'est de se dire qu'il faut être en... Il y a une position à adopter. La position, c'est la position d'ouverture. C'est la position de se laisser traverser. Je veux dire, c'est la position de cesser... Alors, attention, je n'ai pas dit entraîner. C'est-à-dire qu'il faut avoir un corps assez solide pour pouvoir, d'une certaine façon, laisser passer la vie tout en n'en étant pas modifié. Il faut être à la fois poreux et en même temps, il y a un côté même invisible aussi. On se laisse... Bon, on est traversé par la vie. Mais il y a une position d'attente, pas d'attente, mais en tout cas d'ouverture et d'accueil. C'est pour ça aussi que j'aime tant Breton. Voilà. Pourquoi Breton ? Parce que Breton, c'était le qui-vive. Il faut être sur le qui-vive. Voilà. Donc il faut avoir une ouïe extrêmement développée et une vue aussi, à l'intérieur et à l'extérieur de soi.
En vous écoutant, vous êtes très volontiers davantage parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de tracer en négatif, en quelque sorte, en négatif, l'ombre du portrait de Raphaël, du héros. Justement, cette force de l'écrivain, cette puissance visionnaire, ce désir de se tenir à disposition de l'existence sans se laisser happer par elle, mais traversé par elle, non pas entraîné, mais traversé, c'est précisément ce qu'il n'a jamais su faire.
Non, d'ailleurs, il ne va pas au bout de son travail. Mmh. Il était parti pour travailler, il était parti pour écrire. Et il ne va pas au bout. Alors, qu'est-ce qui fait que... pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en effet, on pourrait effectivement considérer que, finalement... Valentin meurt parce que c'est un écrivain raté, qui ne va pas au bout. C'est dangereux l'écriture. Hein. Quand vous commencez, il faut finir. Vraiment, vraiment. Un texte, il faut le finir. Même si vous sentez que ce n'est pas terrible, même si vous sentez que ce n'est pas au point. Quand on a commencé à mobiliser ce que peut receler de pouvoir de vie, mais également de mort. L'acte d'écrire, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin sur ce que vous avez commencé à écrire. Parce que j'ai l'impression, je devine même que, en fait, certains sont partis, certains sont morts, pas tous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont mortes de ne pas avoir finalement fini un livre, en fait, et de n'avoir pas su le finir. On n'écrit jamais de manière innocente. Il y a toujours un danger. C'est jamais anodin. Quand on commence un livre, quand on mobilise l'écriture, hein, qui est en soi un autre personnage, qui est même le premier personnage du livre, il faut y aller jusqu'au bout, quoi, tout simplement. C'est pas mystique, mais oui, il y a un peu de ça.
Je comprends pourquoi vous tenez tant à la distinction, en vous écoutant, pourquoi vous tenez tant à la distinction entre narrateur et auteur. Vous y tenez d'autant plus que vous-même, vous écrivez souvent, vous inventez souvent des narrateurs à la première personne.
Oui, mais c'est jamais moi. Je crois que c'est la moindre des choses, et puis surtout... Pourquoi le jeu, effectivement, plutôt... Pourquoi le jeu, souvent, plus souvent que le « il » dans mes livres, hein, c'est parce que je pense que... pour moi, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile pour moi. C'est pas une affaire de facilité. C'est pas comme si vous pouvez me confondre avec le narrateur. C'est que... il faut voir ça peut-être de l'autre côté aussi. C'est que on s'est jamais posé la question de savoir si le jeu ne permettait pas un accès aussi plus direct au lecteur. Voilà, c'est-à-dire que d'une certaine façon, pour moi, le jeu est intéressant parce que il réduit dans l'espace du livre, en tout cas, la distance que pourrait peut-être avoir le lecteur avec le personnage. Je suis au sens de suivre plus facilement, hein, personnellement, un ouvrage écrit à la première personne. Voilà.
Parfois, si j'ose dire, vous jouez un jeu un peu dangereux, dans la mesure où vos personnages sont antipathiques.
Oui.
Par exemple.
Alors rendez-vous compte quand le personnage est antipathique et qu'il est confondu avec l'auteur. Oui. Ce qui m'est arrivé, je peux vous dire que. J'ai été servi parfois.
Mais c'est en quoi le jeu est dangereux. Ouais. Soit il peut être difficile d'entrer en contact avec un personnage antipathique, mais il est encore plus pénible de le confondre avec l'auteur.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, à partir de là, Vous savez, je veux dire, l'écrivain dispose, enfin l'écrivain propose et le lecteur dispose. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas engagé par la bêtise du lecteur qui me confondrait avec l'amateur. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, on peut pas toujours se dire je les bons lecteurs, ça me convient. Les autres, tant pis pour eux. Moi, tant pis pour eux.
Mais vous n'avez jamais essayé de moduler le rapport, même à l'intérieur du jeu, comme le fait Balzac, par exemple, justement, dans La peau de chagrin. J'ai l'impression, à mesure qu'on lit La peau de chagrin, que Raphaël est à différentes distances, que Balzac emploie différentes focales. Le personnage peut être touchant, il peut être émouvant, devient odieux, et il devient totalement... Il finit desséché comme une sorte de corps étranger assez effrayant.
C'est vrai, mais pour parler en termes de personnalité...
Est-ce que vous, dans vos romans, vous n'avez jamais conduit ce genre d'expérience ?
Si, mais pour une raison simple, c'est que de toute façon, dans mes romans, il n'y a pas de personnage qui soit absolument tranché. C'est-à-dire que, de toute façon, le jeu admet complètement la nuance. Moi, quitte à me contredire, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, d'une certaine façon. Et encore une fois, dans la mesure où c'est l'écriture qui est la première personne du texte, c'est pas gênant. C'est pas gênant.
J'ai eu le sentiment que vous... En tout cas, j'ai eu le sentiment que vous conduisiez une expérience de ce genre-là, je ne sais pas si c'était conscient ou non, dans un de vos romans, je pense à Physique.
Mais Physique, c'est le...
Physique, parce physique. Que Physique, ce roman-là, franchement, en le lisant, je n'ai pas arrêté de penser à La peau de chagrin.
Ben oui, parce que c'est un peu l'histoire.
Ben voilà.
D'ailleurs, je dis dans le questionnaire que Balzac m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, la fiction a tous les droits si elle les utilise. Et Physique, c'est ça. Physique, c'est juste l'histoire d'un type qui rajeunit.
C'est un peu plus que ça.
Oui,
c'est aussi l'histoire d'un type qui commence par sa propre mort.
Mais voilà. Alors, par sa propre mort, mais c'est aussi c'est ça, et c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui rajeunit, le rajeunissement étant évidemment consécutif à une forme de châtiment. C'est-à-dire que il rajeunit au point de repartir d'où il était, c'est-à-dire de rien. Jusqu'au limbe. Voilà, c'est là où en fait la différence entre le jeu et il ne se fait pas, parce que c'est quand même un livre écrit à la première personne. Or, c'est un livre écrit à la première personne d'un personnage qui, d'une certaine façon, disparaît. Donc, manifestement, ça ne peut pas être lui qui l'a écrit, ou alors il faudrait considérer qu'il l'écrit d'un autre monde. Alors, tout ça, à mon avis, c'est pas très important. C'est pas très important. Je crois que ce qu'il y a derrière tout ça, ce qu'on est en train de vouloir dire, ce qu'on est en train de vouloir cerner, c'est qu'on est absolument aujourd'hui gêné, et de plus en plus gêné, par cette confusion de la littérature et d'une forme de rapport et d'une forme de témoignage. Je vais vous lire un passage parce que ça permet de rebondir sur Balzac que je cite à la fin. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de romans, on parle d'objets littéraires, de littérature expérimentale, d'autofiction, et même de romans vrais. C'est quand même étonnant, ça. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Face à l'inflation des nouveaux labels, il n'était plus rare de voir préciser en tête d'ouvrage les avis préventifs et tautologiques, ce roman est une fiction. Et ça, c'est vrai. De plus en plus, vous avez affaire, écrit par des... C'est les éditeurs. Ce roman est une fiction. Y aurait-il un roman qui ne soit pas une fiction ? Maintenant, il faut le préciser. Ou, ce roman est une œuvre d'imagination. Ce qui avait toujours été le cas, ce qui ne faisait aucune discussion, devient aujourd'hui quelque chose qu'il faut préciser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, tous les romans qui ne sont pas des œuvres d'imagination... Tous ces romans qui ne sont pas finalement des fictions ne sont tout simplement pas des romans. Voilà, c'est tout à fait... Voilà. Donc, c'est quand même... On est dans une zone aujourd'hui, on est dans un changement, que j'appelle un changement anthropologique, où il faut quand même redéfinir la puissance de l'imaginaire, où il faut se dire qu'un roman, c'est un roman, qu'il ne faut pas chercher derrière le roman, qu'il faut plutôt chercher à côté, tout simplement. Et que c'est surtout une chose, c'est que moi je plains les lecteurs qui vont chercher dans les livres des histoires qu'on leur raconterait ailleurs. Lire un livre, c'est tout simplement être en rapport avec une histoire qui n'aurait pas pu être racontée autrement que par écrit. Voilà. Si c'est pour lire des scénarios de cinéma, des histoires, des blogs, ou des choses comme ça, c'est pas des livres, ça. Je veux dire, il faut. J'en viens au style, tout simplement. Ce qui doit être dans le livre, c'est tout ce qu'on ne peut pas lire, c'est tout ce qu'on ne peut pas lire ailleurs. Voilà. C'est tout ce qu'on ne peut pas lire sur Internet, c'est tout ce qu'on ne peut pas lire dans la presse people, c'est tout ce qu'on ne peut pas entendre des politiques. Voilà. La parole littéraire, l'espace littéraire est une parole rare, à la fois complètement filtrée et complètement profuse, à la fois rare et riche en même temps. Et voilà. Pour moi, c'est ça la littérature. J'en ai, c'est vrai, un peu marre, parce que ça touche tout le monde, hein, ça touche aussi les critiques. Ça, hein, de toute façon, on vous cherche tout le temps. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, bientôt, on demandera le prélèvement ADN à même la page, quoi, pour bien voir que le mec qui est dans le livre et le mec qui a écrit, c'est pas la même personne. Ça, je trouve, voilà, c'est important. On en fait beaucoup là-dessus, mais c'est voilà, c'est.
Vous êtes en train de dire qu'effectivement, dans le monde contemporain, l'espace de l'écriture, de ce qu'on appelle l'écriture, ou l'espace du style, est menacé, en effet, de se réduire, et de se réduire comme peau de chagrin.
Mais c'était. Oui,
parce
bien,
que
sûr.
Si je peux à mon tour lire une page de votre dernier roman, La recherche de la couleur, tout était affaire de regard. Ceux à qui il restait des yeux pour voir se passaient très bien des caméras de surveillance. Le spectacle était bestial. Les politiques dansaient sur le fumier. La pensée pendait à des crocs de boucher. Les ouvriers étaient dissous dans l'acide financier. Les enfants cognaient leurs parents. L'amour était l'autre nom de la vanité. L'hystérie avait pris corps. La poésie avait valeur de regret. Le temps, celui qui donnait une chance, une petite chance au jeu, à la liberté. La liberté, c'était votre mot préféré, dites-vous ailleurs, quand vous aviez 17 ans. C'était compressé. Réduite à une peau de chagrin. Les jeunes étaient vieux, les vieux étaient morts, les morts étaient oubliés. Des colonnes de fantômes défilaient de l'infirmerie psy aux poubelles de la toile. On fabriquerait bientôt de nouveaux vaccins contre la modestie, la mémoire, le secret. Sur les Champs-Élysées, Baudelaire m'avait repris en écharpe. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie.
C'est ça, ce qui subsiste de la vie, l'écriture, c'est ce qui subsiste de la vie.
C'est pas Balzac qui le dit, c'est Baudelaire, voilà, n'est pas mal non plus.
C'est bien Baudelaire pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est écrit, ce qu'on doit trouver dans l'écriture, d'une certaine façon, c'est la vie. Et d'une, en y réfléchissant bien, d'abord, je pense que la vie est à trouver. La vie est à trouver, c'est quand même le grand enseignement des romantiques allemands. Et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas que la vie est à changer, comme vous le racontent les politiques qui ne changeront jamais rien et qui sont là pour ne rien changer. La vie est à trouver. Alors, on la trouve notamment dans l'espace du livre, et à mon avis, essentiellement dans l'espace du livre. J'entends espace de la création. Ça pourrait être pour ça que le livre de La recherche des couleurs est également consacré au cinéma ou à la peinture. C'est que finalement, dans toute création, vous retrouvez la vie. Et la vie, vous ne la trouvez jamais ailleurs que dans la création. D'ailleurs, c'est presque, on en arrive à une tautologie. Hein. La vie, vous ne la trouvez que dans la création. Tout ce qui n'est pas créé est mort.
Et c'est bien pourquoi vous êtes accueilli dans un théâtre.
Oui, c'est vrai. Un théâtre avec des yeux qui me regardent.
Et des yeux qui vous remercient.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir.
Merci.
Je dois je dois simplement vous dire une chose, c'est que il y a eu des moments lorsque je parlais, faire un petit aveu, on n'est pas très loin. Alors c'est pour ça que parfois ça a pu partir un peu loin, de manière un peu lointaine et peut-être parfois un peu confuse. C'est que on n'est pas très très loin dans ces cas-là du principe d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève de, au moment même où je parlais, il y avait des choses qui me venaient, qui relevaient tout simplement en fait de l'écriture. Alors j'aurais été sur une page, il y a beaucoup de choses que j'aurais rayées, que j'aurais remis différemment, mais ce que j'ai voulu faire, parce que ça me semblait, c'est pas que j'ai voulu le faire, c'est que ça s'est passé comme ça, c'est que d'une certaine façon, je voulais pas me mettre face à vous en position de parler, je voulais me mettre face à vous en position d'écrire, parce que c'est peut-être sain d'écrivain, c'est toujours quelqu'un qui, en fin de compte, fait semblant de parler, mais au fond, il est toujours en train de chercher à écrire. Voilà.
À mon tour, c'est quelque chose de beaucoup plus trivial à dire. Nous recevrons, j'ai failli oublier, Marilène, excuse-moi, nous recevrons Belinda Cannon pour Adolphe de Benjamin Constant le 11 février, et vous êtes les bienvenus. Merci.